midi. Bonjour à tous et bienvenue à La Grande Table, une émission réalisée par Philippe Baudouin, préparée avec Raphaël Bourgois, Jeanne Aléos, Clémence Marie et Boris Pinault. La Grande Table, c'est jusqu'à 13h30, deux parties qui entremêlent la culture et les idées. Et au milieu, le journal de 12h30, présenté comme chaque jour, ou presque, par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Cette offensive de l'État islamique dans le Sinaï, une série d'attaques contre l'armée égyptienne dans l'une des opérations menées avec une voiture piégée contre un checkpoint de l'armée égyptienne, donc au moins 15 soldats auraient péri. On fera le point tout à l'heure avec Claude Guibal. Le président américain Barack Obama officialise aujourd'hui le rétablissement des relations diplomatiques avec Cuba, relations suspendues depuis 54 ans et dont le rétablissement était attendu depuis que Washington a retiré fin mai La Havane de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Et puis on parlera évidemment aussi de la Grèce qui a fait défaut cette nuit vis-à-vis du FMI. Il y aurait des discussions qui se dérouleraient encore entre Athènes et ses créanciers. Nous sommes à quelques jours du référendum et il y aurait donc un nouveau programme de sauvetage pour la Grèce qui pourrait être conclu à temps pour l'échéance en tout cas d'un remboursement obligataire de 3,5 milliards d'euros prévu le 20 juillet à la Banque Centrale Européenne. On dira aussi un mot de la question des réfugiés puisque Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés publie ce matin un rapport sur l'arrivée de migrants en Europe. Ils ont été plus de 137 000 réfugiés arrivés par mer en 6 mois, soit 80% de plus que l'an dernier. Voilà donc pour les sujets. Notre invité, ce sera un économiste, Cédric Durand, enseignant à Paris 13 et membre des économistes atterrés. Voilà pour les titres. C'est à vous, Caroline.
Eh bien, pour quitter cette brutalité des nouvelles que vous nous annoncerez, tout à l'heure, Antoine Mercier, je vous propose pour commencer une bouffée d'air pur, un parfum de vacances et de légèreté à quelques jours de l'ouverture des rencontres internationales d'Arles et à l'occasion d'une exposition qui lui est consacrée à la Maison européenne de la photographie à Paris. Tout l'été, focus sur un amoureux de la vie, une figure de la photo qui s'est dit jusqu'à sa mort en 1986 amateur et qui s'est retrouvé à ce titre photographe officiel d'un président de la République. L'artiste Richard Avedon disait de lui que son apparente simplicité était la plus trompeuse. Si vous n'avez pas Antoine encore deviné, peut-être José Arthur saura-t-il vous aider.
Vous faites un métier qui demande un public pour être jugé.
Ah, c'est-à-dire que je fais un métier par passion pour moi et le public me juge par-dessus le marché, mais c'est pas de ma faute.
Vous êtes marié ?
Oui.
Est-ce que vous êtes peintre ?
Oui.
C'est votre métier principal ?
Oui et non. C'est-à-dire oui avant et non maintenant.
Vous êtes né avant la guerre ?
Oui.
Laquelle ?
Les deux.
Le métier que vous faites en dehors de la peinture, vous l'avez voulu dès le plus jeune âge ?
Oui.
Vous êtes né où ? Vous n'êtes pas né près de Paris ?
À Courbevoie.
Nous sommes vus chez vous,
oui.
En face d'un lycée célèbre.
Oui.
Et vous venez de faire une donation de vos œuvres au Grand Palais.
Oui.
Et vous vous appelez l'Artigue.
Oui. Formidable. Bien.
Martine Ravache.
Bonjour.
Et bienvenue à La Grande Table. Vous êtes historienne d'art et spécialiste de la photographie, co-commissaire avec Martine Dacier de l'exposition L'Artigue, la vie en couleur à la Maison européenne de la photographie. Et bonjour à vous au téléphone, Bernard Plossu.
Oui, bonjour.
Vous êtes photographe, vous connaissiez Jacques-Henri L'Artigue, vous l'avez fréquenté dans les années 70. Racontez-nous à quelle occasion vous avez rencontré L'Artigue, vous qui aviez 40 ans de différence avec lui.
Vous voulez que je vous raconte ça maintenant ?
Ah ben oui, je veux bien.
Bon, ben écoutez, en fait, deux historiens, un anglais et un américain, m'avaient emmené le rencontrer quand il faisait un travail sur lui et on est allé chez lui. Et j'étais tout jeune, au début des années 70, et il était avec Florette, il était en train de peindre. Donc j'ai une photo de L'Artigue en train de peindre. avec Florette, près du lycée Janson. Et plus tard, très peu de temps après, je passais beaucoup de temps avec un groupe d'amis plus âgés que moi. Ils sont Jean Lussieff, Jean-Michel Follon et Yves Le Floch, qui est à mon âge, qui étaient les grands amis de l'Arctique, qui se voyaient tout le temps. Moi, j'étais le tout jeune, je les écoutais. Et ils m'apprenaient la vie et je leur apprenais ce que je connaissais de la jeune photographie contemporaine en Californie, etc. Voilà, donc deux rencontres et c'était un ami par ami intermédiaire.
Et d'une certaine façon, vous l'avez rencontré par l'intermédiaire également d'un autre art que la photographie, qui était la peinture. On l'entendait dans cette archive INA de France Inter de 1984 dire qu'il avait été peintre avant d'être photographe. La peinture habite sa photographie couleur, Martine Ravache. Prenez-nous par la main, si vous le voulez bien, pour nous emmener à la Maison européenne de la photographie, à côté de la place, à côté, pas de la place de la Concorde, à côté de Saint-Paul, du métro Saint-Paul. À Paris,
rue de Fourcy,
cette exposition, vous l'avez précisément intitulée L'Artigue, la vie en couleur. C'est ambivalent, cette vie en couleur. Parlons d'abord de la couleur chez L'Artigue.
Alors oui, c'est très bien tout ce qu'on vient d'entendre et de dire, parce que effectivement, ce qui me semble important comme idée qui parcourt l'exposition et qui nous a guidés pendant toute cette exposition, pendant toute la fabrication de l'exposition, c'est l'idée que L'Artigue était peintre et que, enfin, en tout cas, que cette photographie couleur, elle fait le lien. Elle fait le trait d'union entre sa photographie noir et blanc.
Qu'on connaît puis, habituellement.
Voilà, celle qu'on connaît, et qui est plutôt celle du début du siècle, du XXe siècle. Et puis elle fait donc le trait d'union, la photographie couleur, entre la peinture et la photographie en noir et blanc. Voilà, ça c'est l'idée très très forte. C'est l'idée très très forte.
Dans ces images que vous avez choisi de montrer, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a un certain nombre hein, de ces images en couleur, c'est à peu près un tiers,
oui,
de la,
plus d'un tiers,
de la production, oui, que faisait L'Artigue, oui, et qu'avait fait L'Artigue au temps de sa photographie. De ce tiers de la photographie faite par L'Artigue, vous avez retenu l'ensemble, Martine Ravache, ou vous avez retenu une seule partie?
Non, on a à peu près regardé tout, je crois. Je crois qu'on a tout regardé on a retenu évidemment très très peu. Je crois qu'on a fait une première sélection avec 350 tirages de lecture, quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup de choses.
Mais oui. Alors comment expliquez-vous que ces images qu'on voit en ce moment à la Maison européenne de la photographie n'aient pas été montrées? C'est vraiment un autre L'Artigue. En général, on vous connaît, oui, donc ces clichés en noir et blanc qui montrent sa première femme, Bibi. On la retrouve,
hein, on la retrouve
ces images
sur les
en couleur, sa,
oui,
première femme, Bibi. On voit ces images de famille, ses amis, oui, les aéroplanes, oui, du début du siècle, les premières inventions, les premières automobiles. Tous les thèmes qu'on voit dans la production en noir et blanc se retrouve dans ces clichés en couleur. Mais comment expliquer?
Non, Alors, les autochromes, c'est le premier procédé industriel de commercialisation de la couleur. Ce sont des plaques de verre. Et L'Artigue, qui est tout jeune à ce moment-là, qui a 18 ans, il commence à pratiquer les autochromes de 1912 à 1927. Donc, pendant cette période-là, il fait des autochromes.
Technique des Frères Lumière. Hein.
Technique des Frères Lumière, absolument. Absolument. Et donc là, on retrouve tous les thèmes. Je veux dire, à la fois cette vie de privilégié une vie de sport d'hiver. Enfin, vous voyez, des choses comme ça au début du siècle, au début du XXe siècle, c'est pas évident, les sports d'hiver, ou les parties de pêche collectives, la famille, tout ça au château de Rouzat, qui est la propriété familiale où tout le monde se réunit. Tous ces thèmes-là, on les connaît, et aussi les inventions de son grand frère Zissou, les aéroplanes, toutes ces choses-là qu'on connaît. Voilà, ça on retrouve les thèmes dans les autochromes. À partir de 1949, quand il commence la couleur, donc la chronachrome, là c'est vraiment un autre. D'abord, c'est un autre L'Artigue puisqu'il a déjà 61 ans. Et tout ce qu'on va voir dans l'exposition de ces Kodachromes, c'est entre ses 61 ans et la date de sa mort, parce que jusqu'à ces derniers instants, il a photographié en couleur, donc à 92 ans.
Bernard Blossu, vous qui l'avez connu dans une ambiance plutôt amicale, mais aussi professionnelle, puisque vous disiez que vous l'aviez vu peindre et puis qu'il vous apprenait, oui, aussi la vie du photographe, est-ce que vous connaissiez ces images en couleur?
Oui,
qu'on ne voit jamais.
Mais si, c'est Il y en avait déjà pas mal qui étaient sortis dans un livre qui s'appelait « L'artigue et les femmes », il y a une trentaine d'années au Chêne. Et je me suis rendu compte, en réfléchissant et en regardant, qu'il y avait autant de photos couleurs que de photos noir et blanc. En fait, il a toujours photographié les deux, à mon avis.
Oui, absolument.
On a moins vu les couleurs.
Oui, il a toujours fait les deux.
Voilà, il a toujours fait les deux. Et je pense que c'est ça. L'histoire, c'est que c'est le même monde. Je suis tout à fait d'accord avec Martine Ravache. C'est le même monde, qu'il soit en noir et blanc ou en couleur, c'est la même chose, c'est la même joie, la même intuition de ce qui se passe et du bonheur. Et d'ailleurs, ce n'est pas que ça, mais enfin, c'est de l'histoire. Bon, alors ça, je vous en parlerai si vous me posez la question. Mais
je vous pose la question, Bernard Blossu. C'est de l'histoire. Que voulez-vous dire?
C'est-à-dire que pour moi, depuis le XXe siècle, même la fin du XIXe, la photographie, c'est l'histoire avec un grand H. Bon, on voit, pour voir le XXe siècle, on voit une certaine classe sociale avec l'Artigue, et on voit la
plutôt
France
aisée.
La France des congés payés avec Doineau, et à eux deux, on voit tout le portrait du siècle. Bon, en même temps, ça s'étend au monde entier, puisqu'on voit Gandhi de Cartier-Bresson après. La photographie, c'est l'histoire avec un grand H. On ne peut pas avoir quelque chose de plus extraordinaire que ça. Et l'Artigue, même si c'est une classe aisée, montre un aspect qui existe aussi. Quand on voit les photos des promeneuses de l'avenue Foch, de l'Artigue, qui sont de 1911, c'est de l'histoire. C'est extraordinaire de voir ça pour quelqu'un comme moi qui suis né en 1945. Je sais pas. C'est pareil. On voit des tournages de films, des photos de tournage qu'a fait l'Artigue dans les années 30 à Cannes ou à Antibes. C'est de l'histoire aussi. C'est les années 30. Hein.
Martine Ravache, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision?
Oui.
Qu'on pourrait comprendre comme un l'Artigue documentaire, un l'Artigue documentariste, pardon, la photo documentaire, ce qu'il n'est pas nécessairement toujours.
C'est un aspect. C'est un aspect des choses, mais c'est pas évidemment l'unique. Mais oui, bien sûr, je suis d'accord de relier la photographie et l'histoire, en tout cas que la photographie soit une occasion de revoir l'histoire, ou en tout cas même de la connaître ou de la découvrir. C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais justement, il faut bien quand même distinguer dans cette exposition couleur. Je crois qu'elle donne une idée plus précise de ce qu'était l'Artigue, c'est-à-dire qu'en fait, les autochromes, c'est effectivement la période début du siècle et la période de l'Artigue nanti, enfin privilégié, mais la couleur à partir de 1949, c'est un Artigue qui vit une vie de milliardaire sans le sou, comme il dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un Artigue qui est un peu fauché. Enfin, je veux dire, les parents ont fait une relative, sont relativement ruinés. Il a plus d'argent et il vit de sa peinture. Je veux dire, c'est pour ça qu'il est peintre. C'est parce qu'il faut aussi vivre. C'est un espèce de peintre mondain. Et la photo qu'il pratique à partir des années 50, c'est pas du tout la photo des gens privilégiés. Certes, il a gardé ses amis et c'est pour ça que dans l'exposition, on voit des portraits comme ceux de Bill Brandt ou comme ceux de Station, ou même de Jack Kennedy. Des Dubonnet, tous ces gens qui fréquentent, mais c'est aussi beaucoup de photos de la France profonde, j'ai envie de dire, des années 50. Et ça, c'est des photos tout à fait inattendues, avec ce regard tout à fait particulier de l'Artigue sur les gens.
Vous parlez des amis, manifestement les amis comptaient beaucoup, y compris dans sa pratique photographique, et c'est ce dont témoigne aussi Bernard Plossu. Alors on le sait peu, mais l'actrice Charlotte Rampling était une amie de Jacques-Henri l'Artigue. Ils se sont connus dans le sud de la France, où ils avaient chacun une maison, par l'intermédiaire, là aussi, Bernard Plossu, de relations communes. De là est née une amitié qui a conduit Jacques-Henri l'Artigue à être le photographe du mariage qui a uni en 1978 Charlotte Rampling à Jean-Michel Jarre. À son contact, l'actrice s'est mise à la photographie. C'est lui, dit-elle, qui lui a insufflé cette envie et qui l'a encouragée en lui offrant un petit appareil photo. Au micro de Jeanne Aléos de La Grande Table, elle se remémore ce que fut l'homme qu'elle a connu et le photographe qu'elle a vu également au travail.
Jacques-Henri a un sens de la vie extraordinaire, et un sens de la beauté de la vie, du mouvement de la vie, de l'échelle de la vie. C'est-à-dire que quelqu'un rentre dans sa photo et tout de suite, c'est quelqu'un intéressant, on a envie de le regarder. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'il rend intéressant la vie à travers ses photos. C'est quelqu'un de très aérien, très positif. Toutes ses photos étaient toujours portées vers la joie, vers le bonheur, vers ce qui pourrait se faire de excitant et beau, et le mouvement. Et Il ne voulait jamais poser sa caméra sur quelque chose qui le rendait triste ou mélancolique. Il était un peu comme ça dans... à le rencontrer. Je ne connais pas son fort intérieur. Je suis sûre qu'il avait les mélancolies comme tout le monde, mais il ne montrait pas. Il avait une façon de photographier extrêmement léger, encore une fois, comme son personnage. On avait l'impression qu'il ne regardait même pas son sujet. Il avait son caméra, son petit appareil, sur ses genoux, par exemple. Et à un moment donné, il prenait la photo. Il fallait que l'appareil photo va aussi vite que votre œil et que l'obturateur de l'appareil soit exactement ce que votre œil a pris. Il a fait beaucoup de photos incroyables en mouvement. On se demande à cette époque comment il a fait et les photos sont pas floues. Les gens sont pas flous quand ils sautaient. Ah, voilà, il avait un don de vitesse quelque part.
Un don de vitesse, dit Charlotte Rampling. Bernard Plossu, qu'en pensez-vous?
Mais c'est vrai, j'aime bien, il y a une légèreté extraordinaire dans ces photos. C'est vrai que de toute façon, un bon photographe, on le voit jamais prendre la photo. Tous les bons photographes sont aériens, ils dansent, et l'artigue est un, l'article est un...
Martine Ravache approuve. Vous ne la voyez pas, vous êtes au téléphone derrière Plossu. Et puis la Ciotat.
Non, c'est vrai, il y a un côté acrobatique, il y a un côté même chorégraphique chez le photographe au travail. Il s'avère que j'ai déjà accompagné Bernard Plossu aussi une fois dans son travail et tout. Il a aussi ce côté... Il y a toujours un côté sautillant, chorégraphique chez les photographes.
Cela dit, c'est peut-être la différence entre les photographies en noir et blanc de l'article et les photographies couleur, Martine Ravache. C'est qu'en noir et blanc, elles sont plus en mouvement que ces photographies couleurs qui sont plus contemplatives, plus posées. C'est ça le deuxième sens, disons, de votre exposition, l'article La vie en couleur. Mm-hmm. C'est cette idée d'une vie gaie, légère, tournée vers la joie, portée par la joie, disait Charlotte Rampling. Mais en même temps, il me semble qu'on sent poindre une forme de mélancolie quand on a les photographies en couleur sous les yeux.
Je dirais que... cette légèreté, cette vivacité, cette rapidité, on la retrouve aussi en couleur. Elle existe, hein, elle existe. Mais il y a d'autres thèmes effectivement qui adviennent avec la couleur. Comme par exemple, effectivement, comme j'ai un petit peu insisté tout à l'heure en disant que c'est un monsieur d'un certain âge et tout, il y a une autre vision de l'existence. Que c'est déjà une vision un peu méditative de l'existence. Et effectivement, il y a un côté méditatif dans ces photos, contemplatif, on peut dire, plus immobile. Et ce qui donne aussi cet aspect, peut-être quelque chose où il est plus attiré par ce qui est un peu la fugacité des choses, par l'ineffable, par l'éphémère, parce que comme on a un petit peu, on le voit dans l'exposition, on ne passe pas sous silence ce qu'on appelle ses obsessions, c'est-à-dire des choses comme les coquelicots, vous voyez, ou les brumes, enfin des choses qui sont très 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 éphémères. Mère et qui donne justement une idée de la fragilité.
Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, Martine Ravache, parce que d'une certaine façon, ça vient contredire l'image qu'on a de lui, qui voulait absolument immortaliser par l'image. Enfin non, ça ne contredit pas d'ailleurs. Immortaliser les choses par l'image, c'est probable qu'on puisse immortaliser aussi ce qui est éphémère, vous avez raison. je ne parle. Mais il voulait conserver tout ce qu'il passionnait. Il se disait empailleur de choses. Oui. Donc il avait justement cette haute conscience, peut-être la fugacité. Là, je vais me tourner vers Bernard Plossu, de la vie à tel point qu'il voulait conserver absolument tout ce qu'il avait sous les yeux, Bernard Plossu.
Oui, mais c'est ça qui me fascine avec lui, c'est qu'en fait, c'est aussi bien d'une photo de quelqu'un de très connu à une photo, par exemple, prise dans les années 60 d'une femme en Bretagne qui lave du linge. Bon, l'article, c'est la fugacité, mais c'est tout le temps. Il était tout le temps présent. Il fait partie de ces photographes qui ne lâchaient pas l'œil, hein. Il était tout le temps. C'est une obsession, la photographie. C'est ça qui est sympa chez l'article. C'est qu'on peut dire toutes les étiquettes qu'on veut, privilégié, pas privilégié et tout. C'est une obsession. Il a mené sa vie, c'est son destin. Il a toujours photographié tout ce qui passait devant lui, qui le touchait. C'est aussi bien Van Den Gun, son grand ami peintre, qu'une lavandière de linge en Bretagne. C'est ça le commitment, c'est ça ta manière de vivre, c'est de voir en fait.
Y compris, Bernard Plossu, un président de la République.
92 jours après son arrivée à l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing a choisi un photographe. Ce n'est pas un photographe professionnel, il s'appelle Jacques Lartigue, il est écrivain, peintre et photographe aussi. Il a plus de 80 ans. Et le président de la République lui a téléphoné il y a 3 jours pour faire la photo. Ce matin, il est arrivé à l'Élysée, sur le perron de l'Élysée. Il a fait la photo et pour ce photographe de la République d'un jour, eh bien, il est conscient que son cliché devra répondre à un certain nombre de critères.
Il faut qu'elle soit en même temps officielle, qu'elle plaise en même temps au maire de tous les villages et de toutes les villes, qu'elle plaise à tout le monde, c'est-à-dire aussi bien à la gentille paysanne, vieille, bonne femme qui est amoureuse du président, que aux gens très sérieux, et que moi je suis le contraire d'un photographe fait pour faire ça. Et que M. Giscard d'Estaing ne veut absolument pas faire une photo guindée, conventionnelle, etc. Donc, c'est presque impossible, enfin c'est une espèce de... pour un tour de France, mais en fait, c'est très difficile.
Alors, si la photo que vous avez prise ce matin réussit, comment se présentera-t-elle, cette photo officielle?
Elle se présentera un président de la République très beau, très bronzé, en veston, très simple, tout droit, devant un grand drapeau qui s'agite et que je laisse agiter, je ne sais pas comment.
Et oui, la photographie officielle de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, c'est la photographie prise par l'Artigue. Il s'est retrouvé là par surprise, hein, Martine
oui,
Marvache.
Complètement. Oui, complètement. C'est une demande de Giscard d'Estaing qui l'a tout à fait. Il a tout à fait commencé par dire que c'était pas pour lui, mais il a fini par le faire. Ils sont devenus amis, et c'est grâce à ça que s'est organisée la donation l'Artigue, grâce aux relations privilégiées que l'Artigue a su créé avec Giscard d'Estaing. Et donc, ils ont fait ça entre eux deux. Enfin, entre eux deux.
C'est important parce que je dis toujours en plaisantant
que la première œuvre de l'Artigue, c'est la conservation de son œuvre.
Et c'est exactement.
Parce que c'est absolument incroyable. Je veux dire, il nous reste quand même 35 albums qui font quand même, une fois dépliés, un mètre, avec plein de photos dedans. Il nous reste 7000 pages de journal intime. Il nous reste plus de 110 000 photos. Enfin, vous voyez, c'est énorme. La conservation de l'œuvre de l'Artigue, c'est quelque chose d'incroyable. C'est
sa
première œuvre.
Une petite partie, donc, à la Maison européenne de la photographie, dans cette exposition très belle. L'Artigue, la vie en couleur. C'est jusqu'au 23 août. Merci beaucoup Martine Ravache, merci à vous Bernard Plossu. Et comme je disais que nous avions choisi de faire cette émission non seulement parce qu'il y a cette exposition à la Maison européenne de la photographie, mais parce qu'on est à quelques jours de l'ouverture des rencontres internationales de la photographie à Arles, nous avons en ligne également le nouveau directeur des rencontres internationales d'Arles. Bonjour Sam Stourdze.
Bonjour Caroline Bouel.
Nous disions que cette présentation de l'Artigue était une présentation surprenante, inattendue, une façon de revisiter l'œuvre de l'Artigue qu'on connaît mal en couleur. Eh bien, cette façon de revisiter les œuvres autrement, c'est exactement l'idée des rencontres internationales de la photographie telles que vous les avez pensées, Sam Stourdze.
Absolument, absolument. L'Artigue aurait pu en être le parrain. Il est d'ailleurs souvent venu. Notre parrain à nous, en tous les cas, celui à qui on rend cette édition, c'est Lucien Clerc, le fondateur des Rencontres. Il y a 46 ans qui nous a quittés. Et dès l'origine, il y a 46 ans, Tournier, Clerc, quelques amis créaient ce festival avec un petit souffle un peu décalé, avec des images qu'on regarde autrement, une photographie qui vous fait regarder le monde autrement. Je pense que cet esprit-là, on l'a gardé aux rencontres depuis 46 ans.
Alors là, vous êtes en train de fignoler ou finaliser les derniers accrochages pour l'ouverture qui sera donnée et lancée samedi ou lundi?
Lundi, 6 juillet, le top départ est lancé à 10h jusqu'au 20 septembre, 35 expositions, et effectivement, on s'active, les derniers clous se plantent, il va y avoir 35 expositions, 3500 œuvres, et des choses assez étonnantes, avec une photographie qu'on a voulu très ouverte, très en dialogue, en résonance, parfois en confrontation, en s'entrechoquant avec les autres disciplines, et cette année, on se concentre sur les relations entre la photographie et la musique, entre la photographie et le cinéma, entre la photographie et l'architecture.
Et puis dans cette idée de relecture de l'histoire de la photographie revisitée, vous proposez, Sam Stourdze, deux expositions, l'une de Walker Evans et l'autre de Stephen Shaw.
Walker Even, c'est un des grands maîtres de la photographie, un incontournable, mais effectivement, le biais par lequel on l'approche, il a été picture éditeur pour le magazine Fortune pendant des années, et donc on part des magazines, on expose les magazines et un certain nombre de tirages mythiques des photographies de Walker Even dans une dialectique inversée en quelque sorte, les tirages viennent comme les illustrations des pages de magazines. Stephen Shore, c'est le grand coloriste américain que l'on connaît, mais on a rarement eu l'occasion de le voir dans une rétrospective aussi complète qui permet de faire commencer son travail un peu plus tôt, quand il est très proche de Andy Warhol et de la Factory, puis devient conceptuel et land art. Et on comprend beaucoup mieux finalement son travail des années 70 au regard de ses débuts. Et puis dans cette idée de relecture, même si l'exposition est dans la section photographie et musique, on revisite l'histoire de la photographie avec les pochettes de disques, une grande exposition s'appelle Total Records, plus de 600 pochettes de disques, et à travers les pochettes de disques, vous savez, vous pouvez raconter l'histoire de la photo. Tous les grands photographes ont fait des pochettes de disques, Sticky Fingers des Rolling Stones, c'est Andy Warhol, Patti Smith, c'est Mapplethorpe. Vous pouvez comme ça vous promener dans l'histoire esthétique et culturelle du XXe siècle en exposant l'objet photographique que sont les pochettes.
Merci Sam Stourdze.
Merci à vous et à bientôt à Arles.
Arles 2015, un lancement le 6 juillet. Sachez que La Grande Table, dans sa version estivale, présentée tout le mois de juillet par Maëlys Bessery, sera en direct d'Arles et des rencontres le 10 juillet. Il est 12h26, on retrouve la petite minute du jour de Thibaut Sardier. Bonjour Thibaut.
Bonjour Caroline, et vous allez voir qu'on va rester précisément dans le sujet ambiance musicale et 60s au programme aujourd'hui. D'abord parce que sort au cinéma Love and Mercy, le biopic consacré à Brian Wilson, le compositeur des Beach Boys. Mais surtout parce que le Centre Pompidou-Metz s'intéresse à partir d'aujourd'hui à Andy Warhol sous un jour nouveau. Un Warhol underground, ce qui nous permet d'écouter le groupe dont il fut le producteur et pour lequel il dessina un certain nombre de pochettes d'albums, dont celui à la célèbre banane, le Velvet Underground. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. I will be your mirror, voilà une phrase clé pour définir Warhol, je serai ton miroir. D'abord parce qu'il avait un goût pour les portraits, notamment les portraits de lui, pris en instantané avec un polaroïde, comme pour fixer un reflet dans le miroir. Il y a ensuite tous ceux dans lesquels il s'est un peu reconnu, parce que leur travail lui parlait et dont il s'est approprié l'esprit ou la technique. Je n'ai jamais voulu être peintre, j'ai toujours voulu être danseur de claquettes, disait-il. Cette appropriation vaut donc pour la peinture, mais aussi pour la photo, la musique ou le cinéma. Cela le rapproche à la fois des Velvet Underground, de Stephen Shore dont parlait Stan Stourdze à l'instant, ou de Merce Cunningham, et qui le porte aussi à l'idée d'établir une œuvre d'art totale. Et puis, il y a la manifestation matérielle de ce miroir, le lieu dans lequel il convia toute la scène underground de New York à créer librement la Silver Factory. Cette usine argentée ne porte pas son nom par hasard, comme vous allez le comprendre en écoutant la commissaire de l'exposition, Emma Lavigne.
Andy était foncièrement un écouteur, hein. Il était un observateur saisissant tout ce qui se passait autour de lui sans jamais approuver ni désapprouver. C'est-à-dire qu'il va tirer certaines personnes qui sont même des travestis pour en faire des superstars, où on sait qu'il y a des très grands photographes américains comme par exemple Stephen Shore qui dit qu'il n'a pas eu besoin d'aller à l'université, que c'est vraiment dans ce lieu où il y avait aussi bien des films qui étaient tournés, aussi bien les répétitions du Velvet Underground, des fêtes, que véritablement il a inventé sa pratique de photographe. Et Warhol, finalement, a ouvert la porte de ce lieu et il a laissé à d'autres la possibilité d'inventer ce qu'il souhaitait. Par exemple, il était très impressionné par justement la façon dont Billy Naim inventait des décors avec très très peu de moyens. Il a demandé à Billy Naim de transformer cette espèce de loft énorme dans un miroir géant.
Un loft qui prendra donc des reflets argentés, d'où le nom de Silver Factory, dont l'âge d'or se situe entre 1963 et 1967, avant qu'une tentative d'assassinat visant Warhol fasse de ce lieu quelque chose de plus proche d'une agence de pub que d'un berceau de la scène underground. Une scène dont Andy Warhol fut donc évidemment un père spirituel. C'est ce qu'on voit dès aujourd'hui et jusqu'au 23 novembre au Centre Pompidou à Metz.
La chronique de Thibaut Sardier.